Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, l'enjeu. En cette nuit de commencement d'automne, le vieil hôtel à jardin, demeure de la brune Marielle, tout à l'extrême du faubourg Saint-Honoré, semblait endormi. Au premier étage, en effet, dans le salon soie cerise, les rideaux longs tombants des fenêtres ou vitragées, qui donnait sur les allées sablées et le jet d'eau de la pelouse, interceptait les clartés de l'intérieur. Au fond de cette pièce, une large tapisserie Henri II, drapée sur une fleur de fer, laissait entrevoir, en une salle voisine, les blancheurs damassées d'une table en lumière, chargée encore de porcelaine à café, de fruits et de cristaux, bien que l'on joie depuis minuit dans le salon. Sous les deux touffes de feuilles d'argent, fleuries de lueurs d'une couple de girandoles appliquées dans les tentures, deux messieurs, du glacis le plus élégant, aux teints anglais, aux sourires distingués, aux airs bien pensants, aux longs favoris fluides, proféraient le lys de leur gilet vis-à-vis d'une écartée que tenait contre l'un d'eux une sorte de jeune abbé brun d'une pâleur naturelle très saisissante, on eût dit celle d'un mort, et d'une présence au moins équivoque en ce séjour. Non loin, Marielle, en un déshabillé de mousseline dont s'avivaient ses yeux noirs, et des violettes au joint de son corsage où bougeait de la neige, versait de temps à autre du redreur glacé en de longs verres légers sur un guéridon, sans cesser pour cela d'attiser de ses aspirantes lèvres le feu d'une cigarette russe que maintenait annelée au petit doigt gauche une fine pince de vermeil, sourieuse aussi parfois des propos tièdes que, par sursaut et comme lancinée de discret transport, venait lui susurrer à l'oreille, en se penchant sur le perlé des épaules, l'invité oisif, elle daignait répondre monosyllabiquement. Ensuite, c'était encore le silence, à peine troublé par le bruissement des cartes, de l'or poussé de jetons de nacre et des billets sur le tapis. L'air, le mobilier, les étoffes sentaient un peu le fade. Une fluence de veloutine, l'encre du tabac d'Orient, l'ébène des vastes miroirs, le vague des bougies, une idée d'iris. Le joueur en soutane de drap fin, l'abbé Tusser, n'était autre que l'un de ces diacres sevrés de toute vocation, dont la pénible engeance tend par bonheur à disparaître. Rien en lui de ces petits abbés d'autrefois que le bouffi de leur jourieuse a rendu dans l'histoire presque vénielle. Celui-ci, grand, taillé à la serpe, la face d'un ovale au maxillaire si riant, était vraiment d'une espèce plus sombre. C'était au point qu'à de certains instants, l'ombre d'un crime ignoré semblait foncer encore sa silhouette. Chez lui, le grain spécial du teint blafard indiquait des sens d'un sadisme froid. D'astucieuses lèvres pondéraient en ce visage l'énergie naïvement barbare des traits. Ses prunelles noiraudes, vindicatives, luisaient sous la carrure d'un front triste aux sourcils rectilignes, et le regard crépusculaire était comme natalement préoccupé. Souvent fixe. Laminé par les controverses du séminaire, le timbre d'acier de sa voix avait acquis des inflexions mates qui en ouataient la dureté. Toutefois, on sentait le poignard dans la gaine. Taciturne, oh, s'il parlait, c'était de haut et l'un des pouces presque toujours enfoncé dans son élégante ceinture à franges de soie. Très demi-mondain, lancé, comme s'il eût cherché à se fuir. Plutôt reçu qu'accepté, il est vrai. On l'admettait, grâce à cette sorte de peur confuse, indéfinissable, que suggérait sa personne. D'aucuns, ou d'affreux malins à rentes escroquées, l'invitaient aussi pour poivrer, s'il était possible, du clinquant de sa sacrilège présence, du scandale enfin de son costume, la banalité lamentable d'un souper de viveurs. Ce qui réussissait mal, car son aspect gênait au fond même en de tels milieux. Les déserteurs quelconques étant l'irrestimé des inquiets sceptiques modernes. Et au fait, ce costume, pourquoi le gardait-il? Peut-être, s'étant mis à la mode sous cette robe, craignait-il aujourd'hui de se travestir d'une redingote qui eût compromis son originalité? Mais non, c'est qu'il était trop tard, il avait l'empreinte. Ces pareils, même en se laïcisant l'extérieur, ne sont-ils pas reconnaissables toujours? On dirait que de tous les vêtements qu'ils portent ensuite, transparaît l'invisible soutane de Nessus qu'ils ne peuvent plus s'arracher des épaules. Ne l'eussent-ils endossé qu'une fois? On en perçoit l'absence. Et lorsque, à l'instar d'un Renan par exemple, ils jasent du maître leur juge, il semble, par intervalle, qu'au milieu d'on ne sait quelle vraie nuit apparue, alors tout au fond de leurs yeux, on entend, au subit reflet d'une lanterne sourde et sous des feuillages d'olivier, claquer sur la joue divine le visqueux baiser de l'euphémisme. Maintenant, d'où provenait cet or qu'il extrayait chaque jour de sa poche noire, du jeu, soit. Bon, on glissait là-dessus sans approfondir, ne lui connaissant ni dette, ni maîtresse, ni bonne fortune. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'importait? Chacun ses petites affaires. Les femmes le traitaient d'homme charmant, et c'était fini. Tout à coup, tu serres sur un refus de carte, ployant son jeu. « Je perds 16 000 francs ce soir, » dit-il. « 25 louis de revanche, » offrit le vicomte de Glaïeul. « Bon, je ne propose ni accepte le jeu sur parole, et je n'ai plus d'or sur moi, » répondit Tusser. « Toutefois, mon état m'a mis en possession d'un secret, d'un grand secret. » Que je me décide à risquer, si cela vous agrée, contre vos 25 louis en 5 points liés. Après un assez légitime silence. Et quel secret? Demanda M. Le Glaïeul à demi stupéfait. Mais celui de l'Église, répliqua froidement Tusser. Fût-ce l'intonation brève et certes peu mystificatrice de ce ténébreux viveur, ou la fatigue nerveuse de la nuit, ou les captieuses fumées dorées du rôdeur, ou l'ensemble de ces choses, les deux invités, la rieuse Marielle elle-même, tressaillirent à ces mots. Tous trois, en regardant l'énigmatique personnage, venait d'éprouver la sensation que leur eût causé le dressement soudain d'une tête de serpent entre les flambeaux. « Oh, l'Église a tant de secrets que je pourrais au moins vous demander lequel ?» répondit sans plus s'émouvoir le vicomte Le Glaïeul. « Mais vous me voyez médiocrement curieux de ces sortes de révélations. Concluons. J'ai trop gagné ce soir pour vous refuser, donc tenu quand même. Allez, 25 louis en 5 points liés contre le secret de l'Église. » Par une courtoisie d'homme du monde, il ne voulut évidemment point ajouter « qui ne nous intéresse pas ». On reprit les cartes. « L'abbé, savez-vous bien qu'en ce moment vous avez l'air du diable ? s'écria d'un ton naïf la tout aimable Marielle, devenue presque pensive. L'ange d'ailleurs est d'une bizarrerie minime pour les incrédules, murmura follement l'invité oisif avec un de ses insignifiants sourires parisiens dont la sérénité ne tient même pas devant une salière renversée. Le secret de l'Église, ça doit être drôle. Tucer le regarda. Vous en jugerez si je perds encore, dit-il. La partie commença, plus lente que les autres. Une manche fut gagnée d'abord par lui, puis en revanche perdue. La belle, dit-il. Chose très singulière, l'attention, pimentée au début d'un semblant de superstition souriante, était par degrés insensible devenue intense. On eût dit qu'autour des joueurs, l'air était saturé d'une solennité subtile, d'une inquiétude. On tenait à gagner. À 2 points contre 3, le vicomte Le Glaïeul, ayant retourné le roi de cœur, eut pour jeu les 4-7 et un 8 neutre. Tucer, ayant la quinte majeure de pique, hésita, joua d'autorité, par un mouvement de risque tout, et perdit comme de raison. Oh, le coup fut joué très vite. Le diacre eut pendant une seconde une lueur de regard et le front crispé. À présent, Marielle considérait insoucieusement ses ongles roses. Le vicomte, d'un air distrait, examinait la nacre des jetons sans questionner. L'invité oisif, se détournant par contenance, entr'ouvrit, avec un tact qui tenait vraiment de l'inspiration, les rideaux de la croisée auprès de lui. Alors, à travers les arbres, apparut, pâlissant les bougies, l'aube livide, le petit jour dont le reflet rendit brusquement mortuaire les mains des jeunes hôtes du salon. Et le parfum de l'appartement sembla s'affadir, plus impur d'un relent de plaisir marchandé, de chairs à regret voluptueuses, de lassitude. Et de très vagues mais poignantes nuances passèrent sur les visages, dénonçant d'une imperceptible estompe les atteintes futures que l'âge réservait à chacun d'eux. Bien que l'on ne crût à rien ici qu'à des plaisirs fantômes, on se sentit tout à coup sonner si creux en cette existence que le coup d'aile de la vieille tristesse du monde effleura malgré eux à l'improviste ces faux amusés. En eux, c'était le vide, l'inespérance. On oubliait, on ne se souciait plus d'entendre l'insolite secret, si toutefois. Mais le diacre s'était levé, glacial, tenant déjà son tricorne. Après un coup d'œil circulaire officiel sur ces 3 vivants, quelque peu interdits, « Madame et vous, messieurs, dit-il, puisse l'ange que j'ai perdu vous donner à songer. Payons !» Et, regardant avec une fixité froide les brillants écouteurs, il prononça d'une voix plus basse, mais qui sonna comme un coup de glas, cette damnable, cette fantastique parole. « Le secret de l'Église !» C'est qu'il n'y a pas de purgatoire. » Et pendant que, ne sachant que penser, on le considérait, non sans un certain émoi, le diacre, ayant salué, se dirigea tranquille vers le seuil. Après avoir montré dans l'embrasure sa face morne et blême aux yeux baissés, il referma la porte sans aucun bruit. Une fois seul, on respira, délivré de ce spectre. « Ce doit être inexact, » balbutia candidement la sentimentale Marielle, encore impressionnée. Propos d'un décavé, pour ne pas dire d'un farceur qui ne sait de quoi il parle, s'exclama le glaïeul d'un ton de palefrenier qui a fait fortune. Le purgatoire, l'enfer, le paradis, mais c'est du Moyen-Âge tout cela, c'est de la blague. N'y pensons plus, flûta l'autre gilet. Mais, en cette mauvaise clarté de l'aube, le menaçant mensonge du jeune impie avait quand même porté. Tous trois étaient fort pâles. On but, avec de niais sourires forcés, un dernier verre de champagne. Et cette matinée-là, de quelque pressante éloquence que se montra l'invité oisif, Marielle, pénitente peut-être, refusa d'accéder à son amour.